Question d'Islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, c'est une conversation, un entretien avec un homme de sagesse, un homme de connaissance et un homme d'une grande spiritualité qui est le recteur de la mosquée à Dawa, la Villette, que nous aurons tout au long de cette émission. Et c'est avec plaisir que je reçois Larbi Keshat. Larbi Keshat, bonjour.
Bonjour. Le plaisir, tout le plaisir est pour moi.
Merci infiniment, merci de nous faire l'amitié de venir nous édifier par vos propos, nous entretenir de des questions au pluriel, des questions islamiques en France et de par le monde, en ces temps où cette tradition religieuse apparaît pour beaucoup, pour certains non sans raison, pour d'autres d'une manière exagérée, comme une tradition pervertie, avilie, dévoyée, dénaturée par le comportement ignominieux de terroristes, de criminels qui s'en prévalent et qui agissent en son nom. Votre parole a son importance et c'est à ce titre-là que j'ai pensé que les auditeurs de France Culture pourraient être intéressés par ce que vous leur dites.
Je vous remercie pour cette invitation amicale et pour la perspective que vous venez de dessiner. Il est très important de souligner que l'homme est capable de tout, ce qui explique l'importance de la spiritualité. L'islam n'est pas une innovation et la troisième branche des trois traditions monothéistes qui sont le judaïsme et le christianisme. De ce point de vue, il est très important de rappeler, de nous le rappeler, que l'islam a pour objectif de s'inscrire intelligemment et dans l'intérêt général, dans cet espace habité, illuminé par ces traditions qui remontent à ce qui est surhumain, à savoir Dieu. Il est très important de ce point de vue de rappeler à ceux et à celles qui nous écoutent qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur le Coran. Et nous allons constater que le discours coranique, qui est le discours divin adressé à l'homme, est bipolaire. Le début du Coran met l'accent sur l'importance de Dieu comme source intarissable d'amour et de miséricorde. Le second pôle porte le titre de l'humain, les humains. Il est très intéressant. Et dans la tradition musulmane, les enfants commencent au sein de l'école, des écoles coraniques, par apprendre les sourates les plus courtes, à savoir les sourates qui se trouvent à la fin du Coran. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'on peut approcher le Coran, soit à partir de notre situation comme être humain, soit à partir de la source, à savoir Dieu qui se présente dès la première phrase du Coran comme Dieu miséricordieux et dont la clémence et le savoir embrasse ce que nous pouvons voir et tout ce qui est au-delà de notre vision.
Larbi Keshat, vous nous dites que la tradition religieuse islamique ne se veut pas une nouveauté, une innovation, c'est dans le prolongement, en tout cas du point de vue de sa cohérence propre et de sa théologie interne, dans le prolongement, dans le sillage de l'enseignement de la Torah et de l'Évangile. Et de ce point de vue-là, la révélation coranique, toujours du point de vue des croyants musulmans, est un aboutissement ou un accomplissement. En tout cas, c'est un même message révélé par le divin. Et la révélation de Dieu consignée par écrit, faite livre, eh bien, peut être abordée soit par le divin, soit par les hommes. Alors, d'emblée, comment se fait-il que le message d'amour, de bonté et de miséricorde puisse agir différemment? Il y a ceux qui s'y immergent et reçoivent tout ce flot de spiritualité et qui induit et qui imprime leur humanité, et d'autres s'en prévalent pour commettre l'irréparable.
Je pense que cela relève de la fermeture du destinataire du discours coranique. Le Coran est une communication divine opérante. Si l'on constate une absence de l'opérationnalité coranique, la question doit être posée au sujet de l'incapacité volontaire, consciente ou inconsciente, du récepteur de ce Coran. Pour concrétiser cette idée, je me permets de comparer la communication coranique à une source lumineuse. Celui qui décide de fermer les yeux ou de se cacher dans ses couvertures ne verra jamais l'émergence ou la lueur qui se dégage du Coran. Ceci peut nous conduire à mettre l'accent sur notre responsabilité quant au premier devoir impératif catégorique, c'est celui de connaître. La connaissance plénière est celle qui permet à l'être connaisseur de connaître Dieu. La connaissance de Dieu implique l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu implique l'ouverture sur la créature de Dieu, sur la création cosmique et la création de l'être humain. Le premier appel divin adressé à l'homme consiste dans le fait d'actualiser nos possibilités de connaissance, nos possibilités de vouloir et nos possibilités d'aimer. Aimer Dieu et n'aimer aucun être avec Dieu. Aimer Dieu et aimer en Dieu. Et l'amour de Dieu va dans deux sens. L'amour de Dieu à l'égard de l'homme et l'amour de l'homme à l'égard de Dieu. Dieu est au-delà de toute conception, mais Dieu se manifeste à travers sa beauté et sa bonté. Et l'homme vrai, l'homme coranique, l'homme spirituel est celui qui se laisse imprégner, qui se laisse habiter par l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu n'a qu'un seul chemin, c'est l'amour de l'humain. Et l'humain, quel qu'il soit, a reçu de Dieu le qualificatif ou la qualité de noblesse. La noblesse. Et le prophète, d'ailleurs, nous précise le pourquoi de sa mission. Il nous dit précisément « Dieu m'a envoyé pour parfaire les bons caractères ». Les utammima makarim al-akhlaq. Et l'akhlaq n'est pas une notion abstraite. L'akhlaq se traduit dans la manière des relations interhumaines. Donc il est très important d'appeler tous ceux qui veulent entendre, il est très urgent de se détourner de la complaisance dans notre ignorance, pour s'engager dans le sens de la connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance La connaissance de Dieu implique la connaissance de soi. Et la connaissance de soi détermine la conscience de tout ce qui nous entoure.
Larbi Keshat, c'est avec beaucoup d'intérêt que je vous écoute. Et si je devais parler en théologien chrétien, j'aurais dit le kérigme, le point central, la proclamation première, le credo, est aussi l'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi aimer les hommes, sinon ce n'est qu'une pure hypocrisie. Et en plus, c'est un amour réciproque. Être aimé de Dieu et l'homme aime Dieu. D'ailleurs, il y a un verset coranique que je le dis sous votre contrôle, le verset 54 de la sourate 5, qui dit « Ah, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qu'il aimera. » Ça s'écrit pas de la même façon, mais ça va dans les deux sens. Et puis, il y a aussi cette notion de parachever, parfaire la noblesse de la vertu qui est au cœur de la mission prophétique, si ce n'est cette mission prophétique. Et quand je vous ai posé la question à propos « mais comment se fait-il que des hommes se détournent ?», vous m'avez dit « c'est parce que leur cœur est verrouillé, parce que le premier manquement, c'est celui de la connaissance, et notamment la connaissance du divin. » Alors comment faire pour déverrouiller, pour ouvrir le cœur des hommes ?
Il s'agit d'un processus qui a deux niveaux. L'effort personnel et la responsabilité de ceux qui sont censés apporter la voie céleste. La voie céleste a pour objectif d'indiquer la voie. Et le premier...
La première VOX, la seconde VOIE.
Tout à fait, tout à fait. Cette parenté entre ces deux mots est également significative, la voie et la voie. La spiritualité musulmane s'inscrit dans la phénoménologie. Et la phénoménologie évoque dans ce cas particulier la crise que traverse l'anthropologie. En tant que composante, parmi les composantes de la société française, les musulmans peuvent, à condition de faire preuve d'intelligence et de délicatesse, de douceur dans la communication, ils peuvent proposer une sortie à l'anthropologie en crise. Quelle est cette sortie? C'est la spiritualisation et la socialisation de l'anthropologie. Comme vous le savez, quiconque, l'anthropologie s'est déconnectée de la dimension de la transcendance. Et toutes ces difficultés, toutes ces conduites violente résulte de la souffrance provoquée par cette coupure de l'être humain. L'être humain est devenu à l'image d'une maison divisée contre elle-même. Une maison divisée contre elle-même finira par s'écrouler et avec elle l'homme. Il est très important donc de mettre l'accent sur le premier devoir islamique, à savoir se connaître soi-même pour pouvoir connaître. La connaissance en islam précède le devoir d'accomplir les œuvres cultuelles. Et d'ailleurs, les œuvres cultuelles ne sont pas l'objectif. Les œuvres cultuelles expriment la docilité et la conformité intelligente et joyeuse de la créature vis-à-vis du Créateur. Mais ces œuvres cultuelles, telles que la prière, le jeûne, le pèlerinage, doivent se prolonger dans des relations interhumaines. Ce que nous vivons au cœur de l'espace public tire le signal d'alarme. Tout va mal. La haine à la place de l'amour. La violence à la place de la douceur, l'incompréhension à la place de la compréhension, la peur à la place de la sérénité. Tout cela exprime, tout cela constitue une sorte de symptôme d'une maladie grave. C'est le cœur qui n'arrive plus à recevoir la lumière. C'est l'être humain cassé, brisé, qui n'arrive plus à inspirer le souffle divin pour le diffuser sur la place ou sur l'espace interrelationnel.
Oui, Larbi Keshat, vous nous dites que c'est la crise de l'anthropologie. L'anthropologie, étymologiquement, c'est un discours sur l'homme, c'est l'étude de l'humain, de l'humanité, qui, entre autres, mais pas exclusivement, nous a amené à cette situation. Donc il faut spiritualiser, amener plus de douceur, etc. D'aucuns pourraient nous objecter qu'il vaut mieux un humanisme anthropocentré, centré sur l'homme, indépendamment de toute transcendance, mais qui agisse au mieux de l'humanité, qu'un humanisme théocentré, mais avec ses usurpations ou ses autoproclamations d'être défenseur de Dieu et procurateur de ses droits, ne cesse de semer le chaos.
Dans tous les cas, les questions qui se posent aujourd'hui sont multidimensionnelles. Elles sont la cause de tant de facteurs. Et toutes les bonnes propositions sont les bienvenues. Les problèmes sont d'ordre collectif, universel, et par conséquent, les sorties proposées doivent être la synthèse de toutes ces réflexions, qu'elles soient humanistes ou non, qu'elles soient théo-anthropologiques ou non. Je comprends maintenant le monde dans lequel nous vivons est très méfiant vis-à-vis de tout discours se référant à la théologie, parce que nous avons en tête les dégâts causés par une théologie accaparée par des fermetures, des peurs, des ignorances, et notamment le combat qui a eu lieu en France entre une pensée libre et une théologie fermée, réductrice, ont laissé des traces dans la psychologie de notre monde. Pour éviter toute ambiguïté, le plus important pour nous tous, quels sont les horizons vers lesquels on indique aux hommes d'aujourd'hui et aux femmes d'aujourd'hui une sortie, pour sortir de cette crise. Nous constatons, comme il a été bien dit par un romancier, que l'homme d'aujourd'hui oscille entre les abîmes de la barbarie et les cimes de la civilité ou de l'humanité. Que faire pour faire aimer l'élévation qui va nous faire sortir de cette obscurité intellectuelle et de cette frilosité spirituelle, si j'ose dire ainsi. Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Dr Larbi Keshat, recteur de la mosquée à Dawa, La Villette, un homme dont j'ai dit qu'il était d'une grande sagesse et je le maintiens. Vous êtes versé dans la théologie islamique selon ses différentes écoles. Votre parole est rare et nous vous en savons gré de venir vous exprimer sur les antennes de France Culture. Larbi Keshat, vous nous avez dit que le monde était en crise et toujours en crise. Votre serviteur est dans l'après-midi de sa vie et j'ai toujours entendu que le monde est en crise. Est-ce que cette crise aussi longue, aussi prégnante, polymorphe, à tout point de vue, quand elle s'installe comme ça, ne signe-t-elle pas simplement un changement de monde, un enfantement d'une nouvelle ère, et il suffit de savoir l'accompagner, alors avec le souci de l'homme, du point de vue de la spiritualité islamique, vous nous avez parlé de cette noblesse qui doit caractériser le comportement humain, et vous le savez mieux que quiconque, il y a cette notion de Dieu qui a honoré, qui a ennobli les fils d'Adam. Où voit-on de nos jours cette noblesse des caractères des humains?
La foi ou la spiritualité inspire ou imprime dans les profondeurs du croyant le respect. Ce n'est pas fortuitement que la langue coranique a fait dériver le mot « haram » et le mot « ihtiram » de la même racine. Hélas, dans les moments décadents, les gens...
Nous les traduisons pour les auditeurs, c'est-à-dire oui. Ce qui est sacré ou interdit, ou en tout cas inviolable, est à la même racine que ce qui relève du respect et qui ne doit pas être aussi approché sans conséquences. Au contraire, il y a cette notion du respect, de l'inviolabilité d'autrui.
Tout à fait. Pour aller dans le sens que vous venez d'évoquer, un jour, le prophète pointait de son doigt la Kaaba. La Kaaba, pour dire à ses compagnons, vous savez que pour nous musulmans, le lieu le plus sacré est la Kaaba. Mais je vous rappelle...
La Kaaba étant cette demeure de forme cubique qui se trouve dans la ville de la Mecque et qui est le lieu du pèlerinage des fidèles musulmans.
Effectivement, mais la quintessence de la sacralité est incarnée par l'être humain. Le prophète disait littéralement, l'être humain est plus sacré que cette bâtisse cubique, Kaaba. Je pense qu'il est très important de rappeler cette vérité de façon ininterrompue, parce que l'homme qui est capable du meilleur comme du pire est souvent victime de son oubli. Insan et Yensa. Nous oublions l'essentiel. L'homme ne doit en aucun cas être traité comme un objet. C'est l'homme qui est doué d'intelligence et d'amour doit être très sensible à tout objet, à tout être humain. Les êtres humains me rappellent la beauté et la bonté de Dieu. Et c'est un sacrilège de piétiner ce qui est beau, de ne pas respecter ce qui est objectivement respectable. C'est le respect. Le respect. Le respect est nécessaire pour que nos diversités religieuses et nos diversités culturelles puissent se symphoniser. Le respect. Mon point de vue n'embrasse pas la totalité. Le point de vue de mon voisin n'embrasse pas non plus la totalité. Mon point de vue n'est qu'une goutte dans cet océan fait de diversité, fait de diversité. Cette diversité est voulue par Dieu. Et toute tentative visant de gommer cette diversité est un acte condamnable. Et d'ailleurs, le désaccord qui domine les relations internationales et les relations humaines a une graine de violence. La violence commence dans les esprits. La violence se traduit initialement par des propos malsains, par des propos irrespectueux. Et l'un des degrés de la violence très violente est la violence physique qui ne recule pas devant l'assassinat des innocents. Les problèmes, certes, résultent de cette diversité non assumée, mais les problèmes peuvent être considérés comme une crise dans le sens où la crise a deux facettes. La facette qui nous rappelle que le chemin que nous venons d'entreprendre ne conduit nulle part, mais cela peut être utilisé, peut être saisi comme une opportunité pour voir au-delà de nos petits nez.
Larbi Keshat, c'est dans l'esprit des hommes que naissent, selon la devise de l'UNESCO, les velléités de belligérance et de violence. Et donc c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut ériger, si je dois être fidèle à la devise, les défenses de la paix. Donc c'est un travail à la fois d'éducation et, comme vous le dites et vous l'avez mentionné au début de cet entretien, un travail aussi de connaissance, ceci d'une part, et d'autre part, ce qui est condamnable, c'est le fait de vouloir gommer la diversité voulue par Dieu. Mais vous avez toujours ceux qui veulent tout uniformiser, parce que ce qui est intolérable pour eux, c'est pas qu'il y ait d'autres, mais qu'il y en ait même d'autres qui parlent autrement de Dieu tel qu'ils le conçoivent. Alors, ce travail d'éducation, cette propédeutique qu'il faut pour passer de l'enseignement vers l'éducation, comment vous le concevez-vous et comment vous le percevez et comment vous le mettez en pratique?
Je pense que toutes les institutions sont appelées à coopérer, en commençant par l'institution la plus importante, à savoir la famille. L'éducation au sein de la famille ne se fait pas seulement en termes d'ordre, mais par l'exemplarité. Et d'ailleurs, l'homme qui a la possibilité de promener son regard vers ce qui se trouve en dessous de ses pieds, comme vers ce qui est au-dessus de sa tête. Lorsque le regard des uns et des autres se promène vers le haut, c'est cultiver la faculté de s'interroger. Interroger le ciel pour pouvoir où mettre ses pieds. Je me rappelle d'un événement qui a marqué la vie du prophète. C'est celui du changement de l'orientation, de la qibla, de la prière. Le prophète était très conscient des questions qui étaient très mouvementées dans son esprit. Mais pour respect vis-à-vis de Dieu, le prophète n'a pas voulu verbaliser ses interrogations. C'est Dieu qui l'interjecte pour lui dire « Tu es à la recherche d'une orientation. Je vais t'assigner une orientation qui te procurera satisfaction. » L'homme d'aujourd'hui, nous sommes tous à la recherche, pas d'une nouvelle cartes routières, parce que je pense que toutes les cartes routières sont caduques aujourd'hui. Nous avons besoin d'une boussole. C'est la boussole à la disposition de toutes les sociétés humaines, de toutes les traditions religieuses comme de toutes les traditions non religieuses. D'ailleurs, vous avez insisté à juste titre sur ce phénomène de la diversité. Qui dit diversité dit liberté de penser, dit liberté d'agir. Il y a une seule condition à la liberté de penser, ne pas imposer sa façon de voir ni sa façon d'agir à autrui. Pour éviter tout malentendu ou pour essayer en premier temps de limiter les dégâts, il est très important de nous orienter vers le sens du dialogue, de l'échange. Aujourd'hui, le monde actuel a fait des exploits dans le domaine des moyens de communication. Les moyens de communication ne font rien si ce n'est de réduire la distance géographique. Ces moyens de communication doivent être accompagnés, couronnés par une nouvelle génération capable de favoriser la communication. Ce qui nous manque, c'est l'être communicant. L'être communicant. Quand je dis en français, tout simplement et banalement, ces deux salles communiquent. Le verbe communiquer ici ne désigne aucune action. Il désigne seulement qu'il y a une ouverture entre ces deux espaces. L'ouverture qui permet de renverser la situation, c'est l'ouverture des cœurs, l'intelligence des cœurs. Maintenant, l'intelligence de la tête est enflée et l'homme est devenu orgueilleux. C'est la crise aussi d'un homme super intelligent, mais moralement ou éthiquement hyper violent. Cela veut dire que l'intelligence de la tête ne suffit pas. Et d'ailleurs, le Coran insiste sur l'unicité du Créateur et le système bipolaire, voire multipolaire, de la création. Il y a l'intelligence de la tête qui a un grand besoin de se connecter à l'intelligence du cœur. La bonne parole ne fait rien sans sa traduction en une bonne attitude. Et le chemin le plus court vers Dieu, c'est l'amour de la vérité. Et la vérité est au-dessus de tout, à condition de ne pas prétendre posséder la vérité. Personne ne possède la vérité. C'est la vérité qui nous dépasse, qui doit nous donner la possibilité à faire preuve d'humanité. Il est impossible de vivre seul. Tout le monde le sait. Maintenant, notre éducation doit également porter sur ce dilemme, cette sociabilité insociable. L'insociabilité n'est pas une fatalité. Il suffit maintenant de revoir notre façon d'éduquer les nouvelles générations et surtout de donner un sens concret à tous nos bons discours. La spiritualité n'est pas une dissertation. La spiritualité est une réalisation de l'amour de Dieu, de l'amour de toutes les créatures de Dieu. Et quiconque déciderait de porter atteinte à la beauté de Dieu, à la bonté de Dieu, n'irait pas loin.
L'Arbi Keshat, en réaction à vos propos, j'ai été amené à penser que à l'intelligence de l'esprit, de la tête, l'intelligence froide, rationnelle, et il vaut mieux privilégier l'intelligence du cœur. D'aucuns parlent tout de même, et le tout de même n'est pas une restriction, d'une hybridation de l'intelligence pour qu'on en ait une seule qui allie à la fois l'intelligence de l'esprit et de la tête avec celle du cœur pour pouvoir agir rationnellement et intelligemment ici-bas, mais tout en laissant place dans son cœur à accueillir l'autre, l'humain, même la création tout entière. Ceci d'une part, et d'autre part, le maître mot devient la liberté. La liberté d'agir, la liberté de croire, de ne pas croire, la liberté d'expression. Quel message donnez-vous à ceux qui, en nom même de cette liberté, veulent n'avoir qu'une vision étriquée, étroite de leur conception de la liberté et dénie à d'autres le fait même, par exemple, d'abjurer leur propre tradition ou leur propre religion?
Dans tous les cas, la caractéristique essentielle de l'être humain consiste dans sa liberté de choisir ou de ne pas choisir. D'ailleurs, dans la sourate 18, le Coran le précise de la façon la plus notoire. La vérité émane de Dieu. À vous de choisir.
C'est le fameux verset 29 de la sourate 18.
Merci
de la caverne.
De cette précision. Donc, dans cette perspective, l'homme doit assumer les conséquences de ses choix. Dans le cadre de la liberté que Dieu accorde à toutes ses créatures, le plus important, c'est de ne pas user de sa liberté pour entraver la marche vers la réalisation de l'intérêt général. L'intérêt général doit primer nos petits intérêts. Du point de vue éthique ou éducatif, il est très important aussi de faire un effort pour délaisser ce dualisme qui nous a empêchés et qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. Le dualisme qui consiste dans le fait de creuser un fossé entre l'âme et le corps, entre les œuvres cultuelles accomplies collectivement dans des mosquées, dans des synagogues ou dans des églises, mais dès qu'on se trouve au sein de la cité en dehors de toutes ces demeures réservées à la pratique spirituelle, on constate qu'il n'y a aucun lien entre les œuvres cultuelles accomplies et le comportement. Et d'ailleurs, le Coran insiste. La prière canonique accomplie doit se prolonger par la détestation de tout ce qui est extrémisme. Al-farsha, le mot farsha que l'on traduit par turpitude, est
essentiel. Perversité.
Perversité et tout ce qui dépasse la mesure. Tout ce qui dépasse la mesure au niveau de l'intention, au niveau de la parole et au niveau de l'action. Et pour revenir à notre propos initial, le Coran qui débute par notre enracinement dans la notion de Dieu comme déclencheur de processus d'amélioration insiste sur l'humanisation. Le Coran n'est pas un livre à répéter inintelligemment. Non, le Coran est un livre qui incite la méditation. Et la méditation va de pair avec la réflexion. Et cela nous conduit à la synthétisation et la symphonisation de l'intelligence du cœur et l'intelligence, comme vous l'avez bien écrite, froide, l'intelligence mécanicienne.
Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le docteur Larbi Keshat, recteur de la mosquée à Dawa à la Villette, théologien, imam. Vous présidez et vous conduisez la prière aussi, Larbi Keshat, et les fidèles qui viennent dans une grande affluence vous écouter s'imprègnent de vos propos. Dans cette dernière partie de l'émission, j'aimerais, si vous voulez bien, que nous parlions du dialogue à la fois interreligieux que vous initiez au sein de votre mosquée et ailleurs, mais aussi du dialogue tout court. Vous avez parlé de communication. Pour vous, le dialogue judéo-islamo-chrétien, si on reste dans la famille abrahamique, mais au-delà, est une nécessité vitale?
Plus qu'une nécessité vitale.
Besoin impérieux?
Très impérieux. Un besoin très impérieux. Et d'ailleurs, je pense que le bouleversement géopolitique incite les uns et les autres à s'engager dans le sens du dialogue. Qui dit dialogue dit deux visions, deux expériences, deux histoires. Et la grandeur de l'humanité relèvera de la synthèse intelligente qui regarde l'avenir de tous ces apports, de toutes nos traditions, la tradition judéo-islamique, la tradition judéo-chrétienne. C'est cette dimension triple qui nous appelle à opérer en chaque instant et en chaque lieu, à opérer cette élévation, l'élévation qui va nous permettre de faire de la terre, qui est notre maison commune, non une vallée de larmes, mais un espace resplendissant.
Oui, et l'œcuménisme vient de l'écumène, ce village terrestre habité. C'est aux hommes et aux femmes, bien entendu, à l'être humain, d'avoir sa responsabilité, de pouvoir y vivre tel un havre de paix, ce vaisseau qui vogue vers plus de calme, de sérénité, ou parce qu'il est aussi inhérent à l'homme, d'être, parce qu'il est oublieux, parce qu'il est pécamineux, parce qu'il est orgueilleux, d'agir selon ses envies, ses ambitions débridées et de semer le désordre et le chaos. Encore une fois, dans ces rencontres parfois triangulaires, parfois bilatérales, ou même avec ceux qui ne professent aucune tradition religieuse, il y a cette dimension où vous insistez sur sensibiliser les cœurs, les esprits, prendre en charge les aspirations, notamment de la jeunesse, du point de vue spirituel et même répondre à leurs interrogations, notamment de sens.
Je pense que nous avons tous les atouts pour réussir cette aventure. Souvent, je ne suis pas de ceux qui réduisent le dialogue à des rencontres entre des personnes versées dans la connaissance de leur tradition. C'est très important. Le mot n'est pas la chose. Et la carte n'est pas le terrain. Que faire pour traduire nos bonnes paroles, les traduire en bonnes actions? Comment? Nous sommes tous habités par le plaisir de partager. Pas seulement, malheureusement, le verbe partager n'est souvent évoqué que lorsqu'il s'agit de partager des choses ou des objets. Partager des moments de réflexion. Partager des moments de méditation. Partager des moments de fête. Il y a quelques années, dans les années 90, voire fin 80, au niveau du 19e arrondissement, nous avons initié les enfants de l'école publique qui incarne la diversité dans le sens plein du terme.
De la nation.
Les enfants du 19e, de certaines écoles, ont élaboré ensemble un calendrier commun à la tradition juive, la tradition chrétienne, catholique et protestante, et les autres traditions asiatiques. Et c'est grâce à ce calendrier préparé par les enfants que les parents de tous ces enfants ont pu, grâce à cette occasion, tisser des liens. Donc il faut créer des réseaux au sens noble du terme, pour que tout ce qui est beau et tout ce qui est bon circule pas à sens unique, mais dans les deux sens. Et nous sommes tous à la fois, nous sommes tous appelés à être enseignants et enseignés. Même ceux qui reçoivent de nous peuvent nous inspirer de belles choses. À titre d'exemple, vous avez fait allusion au grand rassemblement du vendredi. Un connaisseur gnostique a reçu une question d'un fidèle. « Ô vénérable maître, peux-tu me dire qu'il est le meilleur d'entre tous ces fidèles qui occupent l'espace de la mosquée ?» Le gnostique en question répond par une question. « À mon tour, disait-il, je te demande de m'indiquer le plus serviable parmi tous ces fidèles qui sont en train d'accomplir la prière. » La réponse a été donnée, un tel. Et le vénérable gnostique dit, le meilleur de tous ceux qui sont en train de prier le vendredi est celui qui est au service de toute la communauté. Et le mauvais, le pire, c'est celui qui a le cœur abîmé par la haine et par l'irrespect de ses semblables. C'est très important. Donc, cela nous rappelle quel est le rôle maintenant des synagogues, des églises et des mosquées. C'est, je pense que l'être humain ne perd, il y a des exceptions, ne perd pas la foi. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est libérer la foi pour que nous, libérer la foi et laisser-la nous convertir au sens profond du terme. C'est la raison d'être de toutes ces mosquées, de toutes ces églises et de toutes ces synagogues.
Alors vous parlez de conversion au sens d'un retour, au sens grec du terme, de métanoïa.
Pas la conversion au sens banal
aujourd'hui. Bien entendu. Alors, ce dialogue interreligieux qui se fait sous la voûte commune de la laïcité, avec la catalyse, si je puis dire, du regard et de l'aide, voire des pouvoirs publics, aide, nous n'avons pas dit le mot durant toute l'émission, et c'était l'occasion aussi d'en parler dans d'autres, à ce micro même, de cette jeunesse en dérive, sensible aux sirènes des islamistes, de la radicalisation, etc. Vous pensez que c'est comme ça que cette jeunesse va être immunisée, vaccinée contre ces dérives meurtrières?
Dans tous les cas, cette jeunesse perdue, désaxée, nous rappelle nos manquements à nos devoirs. Et pour que cette jeunesse puisse retrouver sa sérénité et entreprendre une voie autre que celle poursuivie aujourd'hui, cette jeunesse a besoin d'un dialogue aussi, d'un dialogue qui nous permet de faire de l'autre un responsable. Doucement, doucement, il va découvrir ses propres fautes, à l'instar de ce sage grec qui conduisait ses interlocuteurs vers la découverte de ce qui ne va pas. La deuxième possibilité, c'est de proposer à ces jeunesses des actions d'ordre collectif, les faire travailler, par exemple, dans différents quartiers que l'on propose à ces jeunes de nettoyer, par exemple, l'espace qui entoure des immeubles. De les initier aussi à faire très attention à la propreté des entrées des immeubles, au bon fonctionnement des ascenseurs. Il faut les activer, cette super vitalité utilisé mauvaisement, mérite une orientation. Et tout cela, je pense à propos de la violence, certes, la dimension sécuritaire est inévitable, mais à long terme, c'est tout faire pour que la transformation ait lieu à l'intérieur de la personne. Et maintenant, malheureusement, le spectacle dominant est celui de la violence. La violence verbale, la violence physique, la violence multiforme. Essayons d'exposer des exemples de réussite, d'entente, de concordance. Et comme le mal est contagieux, le bien est également contagieux. Donnons la possibilité à ce que nous considérons comme bien commun d'illuminer les esprits afin d'éclairer les espaces qui sont devenus des zones infréquentables.
Eh bien, pour que ces zones soient fréquentables, il faut qu'elles restent illuminées par cette notion du bien. Merci beaucoup, Larbi Keshat. Merci, vous êtes recteur de la mosquée à Dawa la Villette et théologien versé dans les connaissances coraniques. C'était question d'islam. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jean-Richard Dufour. Et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.